Bonjour. Alors ce matin, je vous invite à terminer cette série de messages sur ce thème. Combien important le péché couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. C'est une parole qui a traversé toute l'histoire de l'humanité. Je ne sais pas si vous en rendez compte ce matin encore. Et je pense que plus on est conscient de la réalité du péché, plus on va vivre la grâce de Dieu. Parce que c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. On n'a rien fait pour. Dans le sens qu'en venant sur cette terre, ben, c'était pas notre but premier, on ne le savait pas. Mais heureusement que la parole de Dieu nous révèle. Donc c'est un thème tellement fondamental que plus on avance dans la vie d'être humain, mais aussi dans la vie chrétienne, plus on devrait réaliser l'ampleur. Oui, que le péché est vraiment une arme de destruction massive, comme je le disais tout au début. Et Dieu n'a de cesse, n'a de cesse, n'a de cesse de nous le rappeler, pas pour nous écraser, mais pour que nous puissions d'autant mieux entrer dans sa grâce et vivre sa présence. Donc, on va terminer ce dimanche. J'espère que vous avez été édifiés, encouragés. Et ce matin, on va faire un petit résumé et puis terminer sur une pensée assez forte. Et je vous invite vraiment à ouvrir vos cœurs. Avant cela, j'aimerais qu'on puisse prier pour tous les jeunes qui sont en week-end actuellement avec les Bioré et les Lavigne. Ils se sont donc rassemblés pour 2 jours. Et on veut demander au Seigneur qu'il les visite aussi et qu'ils puissent vivre un bon temps là-bas. Seigneur notre Dieu, tu vois notre désir d'être près de toi, de vivre, d'expérimenter ta présence, de vivre ta parole. Et Seigneur, merci de te révéler à nous, de nous utiliser d'une manière ou d'une autre. C'est une immense grâce, Seigneur. Et nous voulons te demander ce matin que tu bénisses tous les jeunes qui sont rassemblés maintenant dans ce chalet. Et nous te demandons vraiment ta bénédiction. Aussi sur Nicolas Broglie qui leur apporte ses messages avec les Bioré, les Lavigne. Seigneur, que ce soit un temps où ils puissent redescendre de la montagne en étant enflammés pour toi, en étant plein de ta lumière, plein de ta grâce. Merci d'être avec eux, comme tu es avec nous ce matin aussi. Amen. Amen. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez du premier message que j'avais donné, c'était au début de l'année, hein, bien sûr. C'était très intéressant de voir que, à partir du moment où l'histoire du péché commence dans ce monde, on voit que Dieu est proche de l'humanité, il est proche de Caïn, il est proche d'Abel. Bien sûr qu'il y a eu cette rupture de relation, mais elle n'est pas définitive. Et Dieu, dans son cœur, veut tout faire pour retrouver cette communion, cette relation avec sa création, avec ses créatures. Et on voit qu'il est aux côtés d'Abel lorsqu'il sacrifie un agneau de son troupeau et il reçoit favorablement ce sacrifice. C'est déjà une préannonce de la venue de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a déjà toute une prophétie qui est inscrite dans cet acte d'Abel. Il y dit, oui Abel, c'est comme ça que tu peux entrer dans ma présence. Le sang, c'est ce qu'il y a de plus précieux parce que la vie est dans le sang. Donc on ne peut pas payer avec de l'argent, on ne peut pas payer avec des dollars, on ne peut pas payer avec de la nourriture ou des biens. Aux yeux de Dieu, le sang, c'est ce qu'il y a de plus précieux, parce que la vie est dans le sang. Et lorsque Caïn se trompe, parce que, ben voilà, il apprend, Caïn, il essaye, enfin, on pense, et puis, ben lui, il ne fait pas juste, ben Dieu ne le récrimine pas, il le chasse pas de sa présence, il lui dit simplement, non, Caïn, non, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu ne peux pas entrer dans la présence de ce Dieu trois fois saint, avec des offrandes de la terre. Il faut que tu comprennes cela. Et Caïn, au lieu d'être humble, au lieu d'accepter, dire oh, ok, ben, je me suis trompé, mais je vais faire comme mon frère Abel, parce que lui il me montre comment je dois faire juste. Ben, il endurcit son cœur. Et lui dit, attention, attention, Caïn. Le péché couche à ta porte. Ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Et est-ce que vous vous rendez compte, Dieu était prêt à lui dire comment dominer le péché? Et au lieu de cela, Caïn se renferme en lui-même et dans une attitude de rejet de Dieu, il part pour la terre de Nod. Donc c'est vraiment la séparation. Ça va être terrible pour Caïn et pour la lignée de Caïn aussi. Mais Dieu était prêt à lui faire connaître des choses qu'il ne connaissait pas. Et j'aimerais lire avec vous ce passage dans le livre de Jérémie au chapitre 33 et au verset 3. Je dis depuis le verset 2. « Ainsi parle l'Éternel qui fait ces choses, l'Éternel qui les conçoit et les exécute, lui dont le nom est l'Éternel. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses cachées que tu ne connais pas. » Imaginez Dieu à côté de Caïn, qui lui dit, « Caïn, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. » Mais ça serait fou de dire non, ça ne m'intéresse pas. Et pourtant, beaucoup d'êtres humains le font. Dieu aimerait se révéler à eux et ils refusent que Dieu se manifeste à eux. Donc, à partir de ce moment-là, l'amour inconditionnel que Dieu a pour l'humanité va le pousser à enclencher le plan du salut. À un moment précis de l'histoire de l'humanité, Dieu a dit en Genèse 3,15, « Je mettrai inimitié entre toi, donc le diable, et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Donc là aussi, c'est une annonce, une prophétie de la venue de celui qui allait nous sauver de notre situation de péché. Tout au début de l'histoire de l'humanité, c'était évident pour Dieu qu'il allait faire quelque chose de définitif à un moment donné. Il allait envoyer le Messie, il allait envoyer celui qui ôte le péché du monde. Et on a vu qu'un des enjeux principaux dans cette situation était de faire prendre conscience à l'humanité de son état de péché. C'est pas quelque chose de naturel. Moi, je ne me suis pas levé un jour dans mon lit en me disant « Oh là là, je suis pécheur !» Non. Il a fallu un concours de circonstances incroyables qui m'amène à un moment donné précis de ma vie, me dire « Oh là mon gars, là il y a quelque chose qui ne va pas. Là il y a quelque chose qui ne joue plus. Et ce n'est pas à côté de toi, ce n'est pas en dessous, c'est en moi, c'est à l'intérieur de moi. » Donc Dieu devait trouver le moyen d'amener l'humanité tout entière, pas seulement une race, pas seulement un pays, pas seulement des citoyens dans l'endroit de cette terre, mais il devait mettre en action quelque chose qui pouvait nous amener à un moment donné de prendre conscience de notre état de péché. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Par amour pour nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a... Non. Vous n'avez rien compris. Hein. Franchement, là, je vais recommencer tous les messages à partir de la rentrée parce que vous n'avez rien compris. Non, mais c'est terrible, Seigneur. Non, bien sûr qu'il a donné son Fils. Mais qu'est-ce qu'il a donné avant son Fils pour qu'on puisse comprendre qu'on a besoin de son Fils ? Ah, enfin. La loi. Si Dieu n'avait pas donné la loi, s'il n'existait pas de loi ici dans cette ville de la Chaux-de-Fonds, tout le monde roulerait à 120 à l'heure. Il n'y aurait pas de feu rouge, pas de stop, pas d'agent, rien. Mais non, on a édicté des lois. J'ai repris aussi une amende. Il n'est pas là, Nicolas. C'est terrible. On est tout le temps en train d'enfreindre la loi. Pourtant, on le sait, 80 à l'heure, mon gars, stop. Ben non, mais oui, mais c'était une route tout droit. Il n'y a même pas lapin sur la route. Il n'y avait même pas de maison. Il n'y avait rien. Ben voilà, ben 95 à l'heure, c'est quand même pas la fin du... Pardon? Non, mais bon, ben c'est leur faute d'aller mettre des trucs là sur la route. Bon, mais vous comprenez ça? Donc, parce que Dieu nous aime et parce qu'on n'est pas capable par nous-mêmes de prendre conscience de notre état, hop, il promulgue la loi. Et qu'est-ce que tu vas faire face à la loi? Tu ne peux rien faire, sinon te reconnaître coupable. Parce que si tu prends rien que les 10 commandements, on ne parle pas de toutes les lois qui existent, mais vous rendez compte, la terre, elle pèse 100 000 milliards de tonnes de lois. Mais pour tout, on a des lois. Et si tôt qu'on enfreint une loi, ben on sait qu'on est coupable. Et on accepte de payer, on accepte d'aller en prison, on accepte... C'est la réalité. Donc, quand Dieu édicte 10 lois, qui peut dire ce matin ici, pas de problème, moi j'accomplis la loi. Voilà. Donc, je suis coupable. Ça veut dire qu'en moi, il y a une fabrique de péché. Une nature qui m'amène continuellement à passer à côté des simples lois que Dieu a mis. Honore ton père et ta mère. Ben mon Dieu. Oh là là, maintenant je les honore, mais enfin, avant quoi. Mais il y a longtemps en arrière, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Hein? Aime ton prochain comme toi-même. Enfin, ouais. Et c'est là qu'on voit combien Dieu est bon, parce que, voilà, il nous prend au piège, entre guillemets, mais par amour pour nous. Et cette loi, elle nous en sert, parce que plus on en est conscient, plus on est conscient aussi qu'on n'arrive pas à s'en sortir par soi-même. On n'a pas les moyens d'accomplir cette loi. Donc, soit, voilà, on s'endurcit, puis on dit, c'est égal, on verra bien ce qui se passe. Ou alors, on se dit, oulala, là, il y a quelque chose à faire. Là, il y a quelque chose que je dois comprendre. Et il y a ce magnifique passage en Éphésiens 1, 17, qui dit, et c'est l'apôtre Paul qui prie à ce moment-là, parce que quand il écrit, il est en train de prier, Paul aussi, qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous sachiez. Donc, tout ce qu'on est en train de vivre, tout ce que tu vis en tant que chrétien, c'est de l'ordre de l'illumination. C'est-à-dire que c'était la nuit, on était dans la nuit, et dans cette nuit, il est venu une lumière, quelque chose qui est venu m'éclairer. Je ne pouvais pas m'éclairer par moi-même. Mais même si j'avais le sentiment, et la parole de Dieu nous dit que notre conscience nous accuse, hein, ça vous est déjà arrivé de vous sentir accusé par votre conscience, mais comme on l'a dit, ça ne sert à rien de vivre dans l'accusation, ça ne change pas la nature des choses, ça ne change pas votre cœur de vous sentir accusé. Ce qui peut changer, c'est comment est-ce que je peux sortir de cet état? Et ça, il y a des millions et des millions de personnes autour de nous, sans le dire forcément, ils pensent tous les jours. Mais comment est-ce que je peux changer ma vie? Et moi, ça m'a touché il y a à l'âge de 24 ans. Je disais, mais comment est-ce que ma vie peut entrer dans une dimension qui vaille la peine d'être vécue? Parce qu'en regardant autour de moi, je disais, voilà, ça ne me faisait pas tellement envie. Même des gens qui, entre guillemets, avaient bien réussi. Ils avaient réussi dans les affaires. Mais quand je regardais leur vie de couple, je me disais, une Mercedes en moins, mais une bonne relation en plus. Hein. Ou des choses comme ça. J'étais insatisfait de voir ce qui se passait autour de moi et insatisfait de ce qui se passait en moi. Donc quand Dieu permet que cette loi vienne, elle va renfermer tous les hommes dans la désobéissance. Qu'on en soit conscient ou pas. Mais au moment où on en est conscient, on sait qu'effectivement, voilà, on n'y arrive pas. Et tout cela pour que Dieu puisse manifester sa miséricorde. À partir du moment où je me sens perdu, j'ai besoin d'un sauveur, n'est-ce pas? Tant longtemps que je pense y arriver tout seul, j'ai vraiment pas besoin d'un sauveur. Je suis assez grand, j'ai tout compris, je sais où je vais, je sais comment je vais bâtir ma vie, je peux tirer des plans sur la comète, plein d'idées. Mais la réalité, c'est que je suis perdu, et Dieu le sait. Et nous avons découvert que cette miséricorde, cette bienveillance de Dieu, s'était manifestée d'une manière absolue au travers de l'œuvre du salut. Lorsque Jésus vient dans ce monde, il vient dans un seul but, c'est de te sauver. C'est de te faire prendre conscience de ton état pour te transporter des ténèbres dans son admirable lumière. C'est le seul but que Jésus a. Bien sûr, c'est d'écraser la tête du diable. Hein. Ça, alors, effectivement, hein, puisque c'était dans la prophétie, et il l'a très bien fait. Aucun d'entre nous n'aurait été capable de faire cela. Mais à partir de là, nous découvrons qu'un horizon nouveau s'ouvre pour l'humanité. Il y a des millions de personnes autour de nous qui n'ont pas compris cela encore, qui n'ont pas vu cette chose-là. Un nouvel horizon est dégagé devant eux. Jésus a payé la dette. Hein, quand on disait tout à l'heure que Caïn avait fait juste, il avait dans les prémices de son sacrifice, il y avait déjà l'annonce de ce sacrifice parfait. Et Jésus, quand il est entré dans le ciel, vous vous rappelez hein, de ce message aussi où on voyait la croix, mais derrière la croix, là, dans le ciel, à un endroit, voilà, je ne sais pas trop où, mais dans le ciel, Jésus entre devant la face de Dieu et offre son sang. Et là, c'est l'apaisement. Tu es acquitté. Et si je crois à cela, je suis acquitté. Quelqu'un a passé avant moi au tribunal. Alors que j'étais convoqué à un tribunal, un jour, chacun, on aura à passer devant le tribunal de Christ. Et là, on verra, toi, acquitté, toi, acquitté, toi, acquitté, toi, désolé, t'as refusé. Ce jour-là, je peux vous dire qu'il y aura des grincements de dents et des cris. Mais est-ce que dans notre petite tête, on est en train de voir ce qui va se passer dans le futur? Hein? Tout ce que Jésus a fait pour que notre futur soit assuré. Donc Jésus paye cette dette. C'est bon, c'est fait une fois pour toutes. Hein? Et dans Jean au chapitre 1, verset 12, il est dit « Mais, et ça c'est le nouvel horizon qui s'ouvre devant toute l'humanité, toutes les races, tous les peuples, personne n'est mis de côté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Le pouvoir. C'est pas Dieu qui nous oblige à devenir les enfants de Dieu. Lui, il a tout fait pour. Mais le pouvoir est là dans mon cœur. Est-ce que je fais ce choix de devenir enfant de Dieu? Amen. Alors c'est un bouleversement total. C'est un paradigme complètement différent d'avant. Et c'est là que Dieu nous dit, voilà, à partir de là, je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé ma vie chrétienne, je ne sais pas vous, mais j'étais d'une ignorance absolue. Tout ce qui concernait Dieu ne faisait pas partie de ma vie. Je pouvais vous donner tous les noms des gardiens de foot suite, je pouvais donner tous les noms des skieurs qui avaient gagné le Lauberhorn et puis Wengen, enfin tous ces trucs. Ça, je pouvais tout vous dire. Là, je savais. Mais quand on a commencé de me parler de Dieu, je me suis dit, dis donc, t'es un ignorant complet. Mais complet. Et aujourd'hui, il y a des gens dans notre cité et dans ma famille qui ne savent même pas qui est Moïse. On sait plus ces choses. Donc, vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, Dieu va commencer de vous révéler, de me révéler de grandes choses. Des choses cachées jusque-là, que tu ne connais pas. Et il ne le fait pas seulement pour les pasteurs. Il ne le fait pas seulement pour les grands ministères. C'est en train de se passer dans ta propre vie. Je ne sais pas, des fois on est tellement baigné dans la soupe qu'on ne se rend plus compte. On vient chaque dimanche à l'église, voilà. On a nos réunions, mais on est l'objet de révélations, d'illumination. On ne devient pas des illuminés, hein, mais d'illumination, des choses qui n'étaient pas et qui deviennent réalité. Mais c'est un pur miracle. Vous cherchez des miracles, mais c'est un pur miracle. Et parfois, on a l'impression que ça fait partie, voilà, ben oui, oh, une petite révélation de plus, une petite illumination. Non, c'est une grâce absolue. Nous sommes l'objet d'une grâce absolue. Et on ne peut pas prendre ces choses comme ça avec légèreté. Chacune de ces choses que Dieu me révèle fait partie, mais d'une grâce absolue. Ce sont des choses qui étaient cachées, que j'aurais jamais pu découvrir par moi-même. Ce sont des grandes choses que Dieu est en train de nous révéler. Et dans ces grandes choses, qu'est-ce que Dieu nous révèle? Il y a un horizon qui est dégagé. J'ai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et Dieu me dit en Ésaïe 35:8, « Hé, il y aura un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Les délivrés y marcheront. » On n'est pas en train de tourner en rond en tant que chrétien. Ben, si vous voulez tourner en rond, vous pouvez. Mais moi, mon Dieu me dit, il y a un chemin qui est tracé. Et je me mets en marche. Et je marche avec Dieu. Et le long de ce chemin, qu'est-ce que je découvre? Je découvre des étapes. Il y a trois ans en arrière, on a fait le tour du Cervin à pied, hein, avec Raymond Geyser, avec une équipe. Et on avait des étapes chaque jour. Mais chaque jour, on s'arrêtait. Chaque jour, on avait un moment, voilà, un lieu où on s'arrêtait pour ben, jouir de plein de choses, la nourriture, le coucher, enfin, une chambre, un endroit agréable. Et Dieu, le long de ce chemin, va préparer des étapes. Vous vous rappelez des étapes? On a fait le petit billet, ceux qui ne l'ont pas, prenez-le. Ça, c'est les étapes qui nous conduisent dans ce chemin nouveau, dans cette vie, cette nouvelle manière de vivre. Il y a, bien sûr, on a parlé de la culpabilité. C'est magnifique de vivre la culpabilité. Mais c'est terrible si on ne sait pas quoi en faire, la culpabilité. Et quand on va à Jésus, hein, et qu'on est convaincu de péché, on peut confesser ses péchés. Vous avez certainement, à un moment donné de votre vie chrétienne, vécu ce moment de, voilà, on a l'impression qu'une tonne de béton a été enlevée d'au-dessus de vos épaules. Parce que j'ai confessé mon péché, qui était en train de m'écraser, qui était en train de me tirer dans les profondeurs de la boue. Et à ce moment-là, au moment où j'arrive à l'étape de la confession des péchés, waouh, quelque chose d'incroyable se passe. Il y a le moment de la repentance, il y a l'étape de la foi, il y a le moment du pardon des péchés, il y a le moment de la conversion, il y a le moment de la justification, il y a le moment de la nouvelle naissance, il y a le moment du baptême d'eau, il y a le moment du baptême du Saint-Esprit, puis il y a la sanctification. Chacune de ces étapes fait partie de ce chemin nouveau, de cette voie sainte. Et quand on prend le temps de s'y arrêter et de comprendre ce qu'on est appelé à vivre, parce que Jésus a payé le prix, mais on ne peut plus être les mêmes. C'est impensable, c'est impossible, parce que ce sont des étapes, je dirais, vivantes, où il se passe quelque chose. On ne ressort jamais de la même manière d'une de ces étapes. Alors, moi, je vous ai invité à faire un petit récapitulatif en se disant, mais tiens, est-ce que j'ai vraiment passé par cette étape-là, ou est-ce que j'en aurais peut-être besoin aujourd'hui? Ça peut aider, hein. C'est comme quand on fait les dames la cuisine, il y a des hommes qui font bien la cuisine aussi. Ben, il y a des choses qu'on sait par cœur, mais tout d'un coup, on a besoin du livre de Betty Bossi, hein, pour voir si, effectivement, je dois mettre X centilitres de crème ou de je ne sais pas quoi de sucre. Donc, voilà. La vie chrétienne, c'est ça. C'est passer par ces étapes et rendre grâce à Dieu de ce que je peux les vivre. Et si je les vis, dans la simplicité, dans l'humilité, mais quelque chose d'incroyable va se produire dans nos vies. Et vous l'avez certainement tous vécu à un moment donné ou à un autre. Donc nous sommes passés à travers toutes ces étapes, et puis nous avons vu que la dernière, c'est l'étape de la sanctification. C'est un mot qu'on n'utilise plus beaucoup, hein, dans le langage courant, de toute façon pas, mais c'est un mot tellement important, la sanctification. C'est l'étape qui nous entraîne dans une suite de transformation de notre vie, dans une suite de guérison, de renouvellement, de libération, d'une transformation de nos pensées, de nos habitudes, de nos attitudes, de notre intelligence. Voyez le boulot ? Ben, ça dure toute une vie. Mais plus on les vit, mieux notre vie sera bien. Plus on les vit rapidement dans les premières années de notre vie chrétienne, plus on s'emportera mieux pour les 100 ans qui vont suivre. Ou les 50, ou les 30, peu importe. Ayant donc de telles promesses, des promesses, hein, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, achevant notre sanctification dans la crainte du Seigneur. Ma vie maintenant a basculé complètement. Elle a changé de paradigme complet. Hein. Avant, je vivais dans les ténèbres, maintenant je vis à la lumière. Mais maintenant, je dois apprendre à vivre ces choses-là. Je dois les expérimenter dans la réalité de mon quotidien. Et vous savez combien c'est difficile, n'est-ce pas? Qui a connu une sanctification facile, aisée, tranquille? Paul dira dans Philippiens 2:12, « Travaillez à votre salut, mettez-le en œuvre. » Il y a un salut, et dans ce salut, il y a, comme disait Rita tout à l'heure, tout l'héritage de Christ. Maintenant, cet héritage, nous on l'a. Si on a un héritage, surtout, hein, on le met dans la meilleure des banques, on le cache dans un gros coffre avec au moins 3 clés, puis on n'en parle à personne. Hein? C'est à peu près ça, hein, la mentalité. Voilà. Mais si j'ai cet héritage de Christ, je dois faire sauter les verrous de fer, les portes des reins, et faire sortir tout ce qu'il y a à l'intérieur de cet héritage. Parce qu'il n'est pas que pour moi. Je dois pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre. Hein? Donc travaille à ton salut, pour que cette terre féconde puisse porter beaucoup de fruits. C'est Jésus qui disait, mais ce que j'ai mis en toi, ce que j'ai mis en chacun de vous, va porter beaucoup de fruits. Ben pour autant qu'on y travaille. Si j'y travaille pas, il n'y aura pas beaucoup de fruits. Il y aura beaucoup de feuilles, beaucoup de branches peut-être. Mais c'est un travail de tous les instants. Ce n'est pas le Club Med, hein, la sanctification. L'Église, ça ne devrait pas être le Club Med. Hein. Ou bien si, on met des chaises longues à partir du dimanche prochain. Hein. Des éventails, et puis voilà, puis des cocktails à la fin, tout ça. Hein? Là, le soleil, tout ça. Voilà. Hein? C'est pas ça. La vie chrétienne, c'est pas le Club Med. Apprendre à ne plus faire de... Vous vous rappelez des mélanges? Qu'est-ce qu'il y avait comme mélange que j'ai fait un dimanche, là? Hein, le cocktail. Qui c'est qui l'aurait bu, le cocktail tout brun, là? Hein? Personne. Pourquoi? Bah, y avait juste un petit peu d'eau impure, enfin, un petit peu brune. C'est pas grand-chose, ou bien... Puis la chaussette, qui c'est qui l'aurait mis dans son armoire avec les chaussettes propres? Personne, mais c'est tellement évident. Et là, dans la vie chrétienne, alors on laisserait tout faire. On continuerait de faire des mélanges impurs. Parce que Dieu est pur, Dieu est saint. Donc il nous dit, voilà, maintenant je t'ai donné la capacité de plus mélanger ta vie. Tu peux vivre d'une manière pure. Hein? Or, c'est pas, vous comprenez, c'est pas planer entre ciel et terre avec une auréole, des petites ailes. Non, c'est dans la réalité du quotidien. C'est dire, waouh, à partir d'aujourd'hui, fini les impuretés, fini les mauvais mélanges, les savants mélanges, hein? Fini les choses qui puent, tout ça. Voilà, ça c'est quelque chose. Mais on voit, et on le sait, et on peut encore entendre des dizaines de messages, mais la réalité c'est que la chair, elle est là. Je dirais la mentalité de la chair, hein? Parce que quand on dit la chair, on ne sait pas trop, mais la mentalité de la chair, là on comprend bien les passions, les instincts mauvais, les appétits sensuels, tout ce qui est de l'ordre charnel, qui nous a aspirés, qui nous a entraînés pendant des années dans des mauvaises habitudes, dans des mauvaises pensées, dans des mauvaises actions. Elle est là. Hein? Elle est tenace, elle est vicieuse, elle est habile, elle est rusée. Elle essaye de faire surface alors qu'on ne l'attend pas. Ça, c'est la réalité. Et puis Satan, il est toujours là aussi. Hein? C'est pas parce que Jésus a écrasé la tête du serpent qu'il est absent. Il est encore là et il est désireux de nous faire tomber dans ses pièges. Hein? Ou bien de nous décourager en rugissant. Il se prend pour un lion rugissant, qu'il ne l'est pas, mais il rugit. Il nous envoie des traits enflammés. Ça, c'est notre réalité. Alors vous comprenez que la sanctification, ce n'est pas quelque chose d'agréable. Moi, je préférais le Club Med, honnêtement. Hein? Là, on vous apporte encore une fois les cocktails, vous avez la piscine, enfin, on s'occupe de vous, on vous fait danser, tout. Non. Mais là, c'est, la sanctification, ce n'est pas très agréable, mais c'est glorieux. C'est glorieux. Et c'est ça qui doit nous encourager à aller de l'avant. Alors, Dieu ne nous laisse pas seuls. Vous rappelez, comme au début, on disait, Caïn, il n'était pas seul, Abel non plus. Ils n'étaient pas confrontés à la réalité du péché tout seuls en se disant, « Ouh là là, comment est-ce qu'on va s'en sortir ?» Dieu était à leur côté. Et Dieu nous dit, et on le sait, qu'il a envoyé le Saint-Esprit. Hein. Il a dit aux disciples, « Écoutez, maintenant moi je vais partir, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. » Et on peut le répéter, mais on a besoin de ces répétitions parce que c'est ces répétitions qui vont à un moment donné nous amener à cette illumination. Moi, je ne sais pas quand elle aura lieu, comment elle a lieu. On est tous différents les uns des autres, mais ce qu'on a besoin, c'est d'être à un moment donné convaincu de cela. Et le Saint-Esprit, moi j'aime bien, parce qu'il est ultra sensible. Par rapport au péché, il est ultra sensible. Et ce n'est pas pour rien qu'on le symbolise par la colombe. Vous avez vu, une colombe, c'est très vite effarouché. Ça ne va pas se poser n'importe où, une colombe. Un corbeau, oui, mais pas une colombe. Et quand le Saint-Esprit vient à notre rencontre, et qu'il se passe quelque chose en nous, il est vite contrarié. Il y a vite quelque chose en nous qui s'allume, qui se réveille. Il y a quelque chose qui nous dit, non, 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 vas-y pas, fais-le pas, évite cela, n'y va pas. C'est pas un message de trois quarts d'heure comme les pasteurs, c'est juste un mot. C'est juste un petit rappel. Est-ce que nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit en nous? Hein? Quand j'étais séparé de Dieu, quand j'étais dans le péché, dans le monde du péché, mais j'étais complètement insensible à ces choses. À la limite, j'étais même indifférent. J'ai fait des trucs avant. Bon, en moi, il y a bien quelque chose qui me disait, « Ouais, ben, c'est pas super ce que tu vas faire là. » Puis je dis, « Pouf, que ça peut bien faire. » On essaye, on verra bien. Puis on le faisait. Et après, on s'étonne que notre vie va mal. Hein? Donc, en face de la tentation, du mal, du péché qui couche à notre porte, le Saint-Esprit en nous va sonner l'alarme. Ring. Vous entendez ce petit ring? Il ne va pas le faire pendant une heure de temps. Il va juste le faire. Hein? Parce qu'il est, pleinement concerné par notre sanctification. C'est l'agent même de la sanctification. Il a été envoyé à nos côtés pour qu'on réussisse notre sanctification. Et ce n'est pas rien. C'est le Saint-Esprit. Ils n'ont pas envoyé un ange, ils n'ont pas envoyé quelqu'un qui ne savait pas trop quoi faire dans le ciel. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé pour notre sanctification. Donc il est pleinement concerné par ma situation. Et là, il ne nous force pas. Le Saint-Esprit ne nous force pas. Je l'ai dit dans mon dernier message, ça veut être un ami pour nous. Et un ami, on parle avec un ami. On partage avec un ami. on ose dire des choses à un ami qu'on ne dira pas à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il est capable, au travers de dons tels que paroles de sagesse, de discernement, de prophétie, de songe, de vision, de nous annoncer des choses cachées que tu ne connais pas. C'est lui qui veut faire ça dans mon cœur. Face à une situation, une parole de sagesse. Face à une situation, une prophétie. Mais ça vous fait la différence. Pas besoin de réfléchir encore des heures, des mois durant. Donc, dans toutes ces démarches que nous sommes en train de vivre, waouh, à ma droite, le Saint-Esprit. Il est là, continuellement. Et la deuxième chose, je vais terminer par là, c'est quelque chose qu'on rappelle, peut-être que j'ai rappelé des dizaines et des dizaines de fois. Mais je crois qu'il y a une prise de conscience, une illumination qui doit avoir lieu dans nos cœurs. Il y a l'action du Saint-Esprit, on en est conscient. Mais il y a cette autre chose. Alors je vais tourner un petit peu différemment que d'habitude. C'est la présence de la pensée de Dieu, hein, la présence de la pensée de Dieu dans notre système de pensée. Vous pensez tous, n'est-ce pas ? Qui ne pense pas ? Je pense donc je suis. Vous êtes. J'espère. C'est ce qui fait la particularité de l'humain. Il est capable de penser par lui-même. Mais ce qui se passe lorsque je deviens enfant de Dieu, c'est que la pensée de Dieu qui était à l'extérieur de moi va entrer à l'intérieur de moi. Et cette pensée nous annonce de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ésaïe 55, 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Si je n'ai pas la pensée de Dieu, je ne serai pas sur la voie de Dieu. Si j'ai mes pensées, je serai sur mes voies. » Donc voyez, c'est voilà, et on peut tellement facilement se fourvoyer. L'apôtre Paul a dit, ça peut paraître gonflé, mais c'est la réalité, 1 Corinthiens 2,16, « Car nous avons la pensée de Christ. » Alors, je ne sais pas trop où ça se situe dans le cerveau, hein, mais voilà. Mais essayez de vous mettre à la place de l'apôtre Paul. Est-ce que ce matin, tu peux dire, « Moi, j'ai la pensée de Christ. » Est-ce que tu peux dire ça ce matin ? Sans te glorifier. Non ? Sans te glorifier, non ? Voilà. Mais, je vous entraîne un peu sur un terrain, voilà, hein, un petit peu. Nous ne sommes pas toujours conscients de vivre la présence de Dieu. Ou qui c'est qui est conscient tous les jours, tous les matins en se levant, voilà, Dieu est avec moi. Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est avec nous ? Comment est-ce qu'on peut savoir que Dieu est vraiment dans ma réalité, parce qu'il l'a dit et parce qu'on le sait. Parce qu'il le dit et il y a plein de gens qui ne le savent pas autour de nous. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples ? Si quelqu'un m'aime, Jean 14, 23, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure quelques maisons à côté de lui. Est-ce que vous avez bien compris cela ? C'est de l'ordre de l'illumination. Si sa parole, sa pensée est en toi, il est avec toi. Nous, on cherche des expériences parce qu'on a besoin de toucher. Ceci est une table. Oui, ceci est une chair. La chair est faible, tremble. Ceci est un micro, je le touche. Dieu demeure en toi. Comment tu veux le savoir ? Comment tu veux démontrer que Dieu est en toi ? Parce que sa pensée demeure en toi. C'est de l'ordre de l'esprit. Dieu est esprit, n'est-ce pas ? Et les grands esprits se rencontrent. Dieu et moi. Mais imaginez, pendant des décennies peut-être, vous avez vécu sans la pensée de Christ. Et maintenant, elle est dans ta configuration personnelle. Elle est dans ton atmosphère. Elle est dans tes pensées. Et ces pensées et tes pensées vont commencer de travailler, de collaborer, d'œuvrer. C'est ça la présence de Dieu, pour moi. Pour moi, ça a été une illumination. Parce que souvent, je me disais, mais comment tu fais ta demeure en moi, Seigneur ? Tu viens avec ton rucksack, tu t'installes, tu déplies ton sac de couchage. Mais comment je peux expliquer ? Comment tu peux expliquer ? Alors, si quelqu'un a une illumination plus grande que moi, j'aimerais que vous le... C'est de l'ordre de la révélation. Vous imaginez maintenant, plus vous serez en lien avec la pensée de Christ, plus Christ sera présent en vous. Vous pouvez vivre à des milliers de kilomètres de quelqu'un que vous ne voyez pas physiquement. Tous les jours, vous lui téléphonez. Hein? Je pense au Galet qui téléphone à Suzel aux États-Unis. Là. Elle est là ou bien? Mais elle n'est pas là physiquement. C'est parce que vous vous parlez qu'elle est là. C'est parce que vous transmettez des pensées. Hein? Et puis, s'il y a une pensée qui ne vous plaît pas, vous dites, « Oh, surtout pas !» Elle est à 8000 km de chez vous. « Oh, mais surtout, fais pas ça, Suzel, je pense que c'est une erreur !» Mais est-ce que vous êtes en elle ou pas? Est-ce que vous demeurez en elle ou pas? Hein? Mais oui, bien sûr, parce qu'on le lui permet. Voilà, mais est-ce que vous avez saisi cette petite chose? Quand vous vous levez le matin, vous n'allez pas toucher Jésus autour de vous. Mais il est là parce que vous l'avez intégré à votre pensée. Et plus je l'intègre, plus je réalise que ces pensées, waouh, ça c'est du solide. Ça me donne une espérance. Ça m'ouvre un chemin. Ça me permet de penser différemment qu'avant, d'être dépouillé de la vieille manière de vivre héritée de mes pères. Moi, j'ai reçu beaucoup de pensées de mon père. Qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai mis en pratique et j'ai vu les limites de ces pensées. Bon, il y en avait des bonnes aussi, on se comprend, mais globalement, ce n'était pas glorieux. Mais la pensée de Christ, lorsqu'elle vient, c'est ça, demeurer en lui. Il demeure en moi par sa pensée. Prenez la décision à partir de lundi d'éjecter toutes les pensées de Christ. Et vous verrez s'il est encore en vous. Vous voulez essayer? Qui c'est qui veut essayer? Juste comme ça pour... Non? Vous voulez pas? Pourtant, vous êtes libre. Mais moi, j'ai connu des gens qui, à un moment donné, bon, par un concours de circonstances, ont fait que ils ont éjecté Christ. La pensée de Christ. La personne de Christ. La volonté de Christ. Ben, je peux vous dire que c'était la descente aux enfers, comme on dit, hein? Très rapidement. Ça ne dure pas long. Hein? Ça va? Vous êtes illuminés? Voilà, on arrête. Hein? Donc, juste pour terminer, moi je trouve extraordinaire, voilà, quand on parcourt toute cette histoire, puis qu'on voit tout ce que Dieu a fait pour nous, on se dit, mais comment ça se fait que j'en suis là où j'en suis? Honnêtement. Moi, je m'humilie devant Dieu de me dire, après 40 ans de révélation, 40 ans d'expérience et tout, que je puisse encore des fois me dire, où est-ce qu'il est Dieu? Est-ce qu'il est dans ma vie? Enfin, des choses comme ça, moi, ça me dépasse. Mais la bonté de Dieu est grande. Alors, pour terminer, on va passer au dia suivant. Est-ce que vous vous rappelez de ce qui s'est passé avec Apollo 13? Hein? C'était vraiment la catastrophe. Hein. Les Américains, bien sûr, ils ont réussi à monter avec Apollo sur la Lune, enfin à descendre sur la Lune, là, et ils étaient les premiers. Tout s'est bien passé jusqu'à Apollo 13. Et Apollo 13, qu'est-ce qui s'est produit? Vous vous rappelez? Houston, nous avons un problème. Et les gars, ils sont à 30 000 km de la Terre. Là, là. Nous avons un problème. Comment est-ce qu'ils ont réagi, là? Vous les voyez, là? Panique à bord. Panique à bord. Comment faire pour ramener ces trois hommes vivants? Ils sont en danger de mort. Hein? Ça a explosé, ils ont plus d'électricité. Enfin, c'est l'horreur. Donc, ils vont devoir, à un moment donné, passer de la cabine principale dans le LEM, parce qu'il y a plus ce qu'il faut là. Et ils vont mettre au point une procédure. C'est pas compliqué. Hein? La situation, elle est vraiment catastrophique, mais tous ces savants vont se rassembler et dire, allez, maintenant il faut faire travailler la machine, comment on va réussir à ramener ces trois hommes vivants sur Terre? Et ils vont mettre en action une procédure, point après point. Et ils vont ramener les trois hommes vivants. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé dans les cieux? Quand nous, ici sur Terre, on n'est pas à 30 000 km de la Terre, on est sur Terre. Et on pêche quand même. Ça vous arrive de pêcher de temps en temps? Malheureusement. Hein? On se sent un peu perdu. Hein? Ça saute tout d'un coup. Il y a quelque chose dans la cabine, boum, ça saute. Et là, moi, bon, c'est sûr, en tant que pasteur, on voit des situations parfois dramatiques où il y a des gens qui sont pas parfois convaincus qu'ils ont perdu leur salut. Hein? Ou alors c'est la culpabilité qui vient, ou voilà, on a manqué la cible, on s'est raté. Alors que faire? Et là, encore une fois, c'est incroyable de voir comme Dieu a tout préparé. Parce qu'il sait d'où nous avons été tirés, n'est-ce pas? Il sait d'où nous venons. Il a été tenté en toutes choses comme nous, Jésus. Hein? Et là, je vois, mais la simplicité de Dieu, mais c'est nous qui sommes parfois tellement compliqués. Deux choses seulement. Si vous partez dans 1 Jean, on peut mettre la suivante, il y a une procédure de sauvetage. Il y a deux choses à faire. C'est confesser notre péché et porter nos regards vers notre avocat, Jésus-Christ le juste. Mais ça paraît trop simple, Seigneur. Moi, j'ai envie de me flageller, tu sais, parce que j'ai commis un péché. J'ai envie de me mettre des clous dans les mains, dans les pieds. Je sais, quand on voit ce que certains font au niveau religieux. Et la parole de Dieu nous dit, tu as péché. Et Jean, il dit, mes petits-enfants, ça veut dire, mais vous avez encore beaucoup de choses à apprendre. J'aime la manière dont, diminutif affectueux, hein, dont Jean parle, mes petits-enfants. Ça veut dire, bon, vous n'avez encore pas tout compris. Hein. Donc, si tu as péché, deux choses. Il faut enclencher la procédure céleste. Hein. Il y a aussi là-haut, donc confesser ses péchés. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Mais pourquoi rester là-dedans? Pourquoi? J'ai vu des chrétiens, enfin, je ne les accuse pas, hein, c'est une constatation. Des mois durant, tourner en rond dans leurs péchés, ne pas savoir comment s'en sortir, ne rien faire peut-être non plus pour s'en sortir, ou de ne plus avoir la force de s'en sortir. Mais toujours est-il que la Bible nous dit, mais confesse ton péché. Et la deuxième chose, c'est regarde à Jésus. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Mais si je ne le sais pas, je fais quoi avec ça? Si je n'ai pas été éclairé, illuminé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tourner en rond dans mon péché. Donc voilà, je voulais vous rappeler des choses peut-être archi connues, mais on doit toujours revenir à ces fondamentaux. Si on passe à côté, on manque la cible. Si on passe à côté, on arrête de vivre cette sanctification. Et on vit des temps difficiles et des temps lourds. Alors voilà, c'est tout ce que je voulais vous rappeler ce matin encore. La procédure de sauvetage, elle existe, elle est là. Enclenchez-la le plus rapidement possible. Ne restez pas plus longtemps qu'il faut dans le péché. Ça peut arriver à chacun. La sanctification est un processus jusqu'à notre mort. Hein. On va devoir apprendre ces choses-là. Mais ça va nous amener à apprendre à dominer le péché. Et je termine avec Colossiens 3, 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Amen. Prions. Oui, Seigneur, nous voulons te remercier ce matin pour cet immense amour qui t'a amené à t'approcher de nous et à tout faire pour que nous puissions prendre conscience de notre état et à préparer tous ces moyens, tous ces outils, enfin, mais surtout, Seigneur, de nous avoir rendu capables d'accueillir ta présence. Seigneur, merci pour ta pensée. Merci pour tout ce que tu investis en nous. Tu investis en nous parce que tu crois en nous. Et tu crois que nous allons aller jusqu'au bout, persévérer dans la sanctification parce que tu nous veux absolument avec toi lorsque tu viendras dans ta gloire. Alors merci, Seigneur, d'avoir parlé aux uns aux autres d'une manière ou d'une autre ce matin. Merci de nous avoir resensibilisés sur certains points importants. Tu le feras jusqu'au bout parce qu'on est des auditeurs oublieux parfois. Mais tu nous aimes et tu nous veux avec toi. Sois béni, notre Dieu. Amen. Amen.